Bonjour amis auditeurs, nous nous retrouvons pour notre émission hebdomadaire sur les Pères de l'Église. Nous sommes au 13e chapitre de ce livre des Actes. Nous atteignons maintenant le centre, le cœur de cet ouvrage. Et aujourd'hui, donc, nous allons reprendre la route avec Saint Paul et Saint Barnabé dans leur premier voyage missionnaire. Et donc, les avons laissés à Icone ou Iconium. Icone, c'est l'ancienne manière de traduire en français. Ça a pris une connotation autre aujourd'hui, ce mot, mais dans ce monde, donc. Et donc, nous allons poursuivre aujourd'hui. Mais comme les gentils et les juifs, avec leurs principaux chefs, allaient se jeter sur eux pour les outrager et les lapider, les apôtres l'ayant su, s'enfuirent à Lystre et à Derbé, ville de Lycaonie, et au pays d'alentour où ils prêchèrent l'Évangile. Ils cherchent encore à développer la prédication, et quand ils y parviennent, on les expulse de nouveau. Remarquez l'avantage des persécutions, les persécuteurs sont vaincus et les persécutés couverts de gloire. Paul, arrivant à Lystre, opère un grand miracle, il guérit un boiteux, en lui parlant à haute voix. Voici comment. Il y avait à Lystre un homme perclus de ses pieds, boiteux dès le ventre de sa mère, et qui n'avait jamais marché. Cet homme écouta la prédication de Paul, et Paul, arrêtant les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi d'être sauvé, lui dit à haute voix, « Levez-vous et tenez-vous droit sur vos pieds. » Et il sautait et il marchait. Pourquoi parla-t-il à haute voix ? Pour que la foule soit amenée à croire. Observez que cet homme était attentif aux paroles de Paul, comme l'indique ce mot. Il écouta. Remarquez son zèle, le chagrin de son infirmité n'ôtait rien à son attention. Paul arrêta les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Cet homme s'était déjà familiarisé avec la préélection. Une marche opposée à ce qui se passait d'ordinaire avait été suivie à son égard. D'ordinaire, on guérissait le corps, puis on s'occupait de l'âme. Ici, il en fut tout autrement, car il me semble que Paul songea d'abord à l'âme. Cet homme sautait et marchait, mais ces démonstrations étaient nécessaires pour prouver sa parfaite guérison. Les assistants ayant vu ce que Paul avait fait, élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Ce sont des dieux sous formes humaines descendus au milieu de nous. » Ils appelaient Barnabé Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était près de la ville, amena des taureaux avec des couronnes devant la porte, voulant ainsi que le peuple leur offrit un sacrifice. D'abord, ils n'avaient pas manifesté un pareil projet. Ils s'écriaient seulement dans leur langage, « Ce sont des dieux sous forme humaine descendus au milieu de nous. » Aussi, les apôtres ne leur répondaient rien. Mais quand ils virent les couronnes, ils sortirent et déchirèrent leurs vêtements. Les apôtres Barnabé et Paul, ayant entendu cela, déchirèrent leurs vêtements et s'avançant au milieu de la multitude, ils crièrent et dirent « Amis, que faites-vous ? Nous ne sommes que des hommes faibles comme vous. » Observez que la gloire mondaine ne les souille jamais. Non seulement ils ne la désirent point, mais ils la repoussent quand elle se présente, comme le dit encore Pierre. Pourquoi nous considérer ainsi comme si nous avions fait marcher cet homme par notre vertu et notre propre puissance ? Il répète ici la même chose. Joseph aussi disait à propos des songes, « N'est-ce pas Dieu qui nous éclaire ainsi ?» Daniel parle de même, « Cette révélation ne vient pas de la sagesse qui est en moi. » Paul tient partout le même langage quand il dit, « Qui est capable d'un pareil ministère ?» Et aussi, « Nous ne sommes capables d'avoir par nous-mêmes aucune bonne pensée comme venant de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous en rend capables. » Voyez encore comme ils rapportent tout à Dieu, imitons-les en cela, et pensons que rien n'est à nous, puisque notre foi elle-même ne nous appartient pas. Bien des gens font tout ce qu'ils peuvent pour parvenir à parler longtemps devant la foule, et s'ils obtiennent les applaudissements du public, ils sont plus heureux que l'empereur. Mais si leur discours se termine au milieu du silence, cet accueil froid et muet leur est plus pénible que l'enfer. Ce qui a bouleversé les églises, c'est que vous ne demandez point des discours qui vous remplissent de compunction, mais qui vous charment par l'harmonie et l'arrangement des mots, comme si vous écoutiez des chanteurs et des musiciens. Et nous autres, nous prenons un soin ridicule et déplorable pour flatter vos goûts que nous devrions combattre. » Nous ressemblons à un père trop faible pour un enfant chétif, qui ne lui donnerait que des gâteaux, des friandises insignifiantes, mais rien de nourrissant. Au reproche des médecins, il répondrait : Que voulez-vous ? Je ne puis pas voir pleurer un enfant. Malheureux, insensé et traître, indigne du nom de père. Ne valait-il pas mieux le chagriner un instant pour lui rendre la santé que de lui donner ce plaisir éphémère qui doit causer une douleur continuelle ? Voilà ce que nous faisons, nous aussi, quand nous travaillons à faire un discours élégant, bien disposé, harmonieux, afin de plaire au lieu d'être utile, pour amuser, non pour toucher, pour recueillir des éloges et des applaudissements, mais non pour corriger les mœurs. Croyez-moi, car je sais ce qu'il en est quand on m'applaudit dans un discours. Je sens que je suis homme. Pourquoi n'avouerais-je pas la vérité ? Je me réjouis, je m'exalte. Mais rentré chez moi, je songe que ceux qui m'ont applaudi n'ont rien gagné à m'entendre. Du moins, le peu de profit qu'ils en ont tiré s'est perdu avec le bruit des applaudissements. Alors je me tourmente, je gémis et je pleure. Il me semble dans mon découragement que mes discours ne servent à rien, et je me dis à moi-même, à quoi bon toutes mes sueurs si ceux qui m'écoutent ne veulent point profiter de mes paroles ? Souvent j'ai pensé à établir comme règle de défendre les applaudissements et à vous persuader d'écouter en silence et dans une attitude convenable. Laissez-moi dire, je vous en prie, et croyez-moi, si vous y consentez, établissons dès à présent cette règle, qu'il ne soit permis à personne d'interrompre l'orateur par des applaudissements. Si quelqu'un veut admirer, qu'il admire en silence. Personne ne l'en empêchera et tout ce qu'il a de zèle et d'ardeur sera mieux employé à retenir le discours. Pourquoi applaudissez-vous ? J'établis une règle là-dessus et vous ne pouvez pas l'observer même en l'écoutant. Il en résultera une foule d'avantages et notre sagesse en profitera beaucoup. Quand les philosophes païens parlaient, il n'y avait jamais d'applaudissements. Pendant les prédications des apôtres, jamais on n'a dit que l'auditoire les a interrompus par des applaudissements. Cela sera un grand profit pour nous. Mais convenons bien de cela pour que les auditeurs restent tranquilles et l'orateur aussi. Quand même, après avoir applaudi, on retiendrait encore en s'en allant quelque chose de ce qu'on aurait entendu, cette manière d'approuver ferait toujours un mauvais effet. Mais je n'insiste pas là-dessus, de crainte de paraître trop sévère. Enfin, puisque cette coutume ne peut être que nuisible, détruisons cet obstacle, supprimons ces élans et coupons court à ces emportements d'âme. Le Christ parla sur la montagne et tout le monde garda le silence jusqu'à la fin de son discours. Je ne prive de rien ceux qui aiment à applaudir. Au contraire, ils admireront davantage. Il vaut bien mieux écouter en silence et pouvoir en tout temps, chez soi et ailleurs, applaudir par réflexion que de rentrer sans rien rapporter et sans savoir pourquoi on a applaudi. Une pareille manière d'entendre n'est-elle pas ridicule ? N'est-ce pas à la fois une flatterie et une dérision que de vanter l'éloquence d'un orateur sans pouvoir expliquer ce qu'il a dit ? C'est là une flatterie que l'on comprendrait seulement chez celui qui entendrait des musiciens et des tragédiens, car il sait bien qu'il ne pourrait en faire autant. Ici, quand il ne s'agit plus de mélodie et de belles voix, mais de sagesse et de raisonnement, comment excuser celui qui ne pourrait rendre compte du plaisir que lui a causé l'orateur ? Rien ne convient mieux dans une église que le silence et le bon ordre. Le tumulte est à sa place dans les théâtres, les bains, les fêtes et les marchés, mais l'endroit où l'on enseigne les dogmes divins doit être le refuge du calme, de la tranquillité, de la sagesse. Ce doit être un port à l'abri des orages. Sachez-le tous, je vous en prie et je vous en conjure. Je cherche toutes les manières imaginables de me rendre utile à vos âmes. En voilà une qui me semble bien importante. Elle me sera aussi profitable qu'à vous-même. Elle nous préservera des chutes où pourrait nous entraîner l'amour des éloges et de la gloire. Elle nous engagera à chercher dans nos discours l'utile plutôt que l'agréable, et à préférer sans cesse la force des pensées au choix et à l'arrangement des mots. Entrez dans l'atelier d'un peintre, vous y remarquerez un grand silence. Qu'il en soit de même ici, car la noblesse des couleurs que nous employons ne permet pas de tracer des portraits de particuliers, mais seulement des images royales. Qu'est-ce donc ? Vous applaudissez encore ? Je vois qu'il est difficile de vous détourner de ce travers, qui cependant n'est pas naturel et ne provient que d'une mauvaise habitude. Notre langue est un crayon, et le Saint-Esprit est l'artiste qui le dirige. Dites-moi, quand on administre les sacrements, voit-on du trouble, du tumulte? Dans les baptêmes et dans toute autre cérémonie, le calme et le silence ne règnent-ils pas? Le ciel même s'en réjouit. Aussi les Grecs non convertis blâment vos applaudissements, comme si nous faisions tout pour la gloire et l'ostentation. Mais, dira-t-on, si l'on parvient à les supprimer, il n'y aura plus d'émulation. Il doit suffire à celui qui aime les louanges de les recueillir en comptant les fruits de sa prédication. Aussi, je vous en conjure, établissons cette loi, afin que, faisant tout pour la gloire de Dieu, nous méritions sa clémence par la grâce et la miséricorde de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, auquel, ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, gloire et puissance et honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Trente-et-unième homélie, les apôtres Barnabé et Paul, ayant entendu cela, déchirèrent leurs vêtements, et s'avançant au milieu de la foule, ils crièrent : « Amis, que faites-vous ? Nous ne sommes que des hommes faibles, comme vous, et nous vous avertissons de quitter ces illusions pour vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Voyez quelle véhémence montrent partout les apôtres. Ils déchirent leurs vêtements, ils s'élancent, ils crient. Tout ce que l'enthousiasme des esprits faisait pour eux, ils le repoussent et en témoignent leur affliction. En effet, ça aurait été pour eux un véritable deuil, une douleur inconsolable, d'être regardés comme des dieux et de fortifier l'idolâtrie qu'ils venaient renverser. Sans doute, c'était un piège du démon. Mais ils en ont horreur, et que font-ils ? Nous ne sommes, disent-ils, que des hommes faibles comme vous. Ils détruisent le mal dès son origine. Ils ne disent pas seulement « nous sommes des hommes », mais « des hommes comme vous », pour ne pas être honorés comme des dieux. Remarquez ce qu'ils ajoutent. « Nous vous avertissons de quitter ces illusions pour vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Observez qu'ils ne s'arrêtent pas à citer les prophètes, ni à dire pourquoi le Créateur a laissé les gentils à eux-mêmes. Dans les siècles passés, il a laissé marcher toutes les nations dans leur voie. Il dit qu'il l'a permis, mais il ne dit pas encore pourquoi. Et pour aller au plus pressé, il ne prononce même pas le nom du Christ. Néanmoins, il n'a cessé de se manifester en répandant sur nous des bienfaits célestes, en nous envoyant les pluies et les saisons favorables aux récoltes, nous donnant une nourriture abondante et remplissant nos cœurs de joie. Il ne cherche pas à aggraver leurs fautes, mais il les engage à ne servir que Dieu. En effet, les apôtres savaient que s'il faut s'efforcer de parler de Dieu d'une manière digne de lui, il est encore plus important d'être utile à ceux qui écoutent. Voyez comme ils dissimulent le blâme qu'ils méritent. En effet, il aurait pu leur reprocher de jouir de tant de biens sans connaître celui qui les leur prodiguait. Cependant, il ne le dit pas ouvertement, il le donne seulement à entendre. C'est du ciel, dit-il, que Dieu nous envoie les pluies. Mais ils eurent beau parler, à peine purent-ils empêcher que le peuple ne leur sacrifie. Voilà ce qu'il y eut de plus admirable chez eux, et ils ne songèrent qu'à les détourner de leur folie. Plusieurs Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Icône et gagnèrent le peuple. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Voilà l'œuvre du démon. Les Juifs agissaient ainsi non seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, et montraient autant d'ardeur à ruiner la prédication que les apôtres en mettaient à l'affermir. Les disciples s'étant amassés autour de lui, il se leva et rentra dans la ville. Voyez quelle ardeur, voyez quel zèle fervent et enflammé. Il revient dans la ville pour faire voir que s'il la quittait, c'était pour répandre la parole de Dieu et pour éviter de n'irriter personne. Cela faisait aux apôtres plus d'honneur que des miracles, et eux-mêmes en étaient plus heureux. Car on ne dit pas qu'ils étaient satisfaits d'opérer des miracles, mais plutôt d'être jugés dignes de se voir méprisés pour la gloire du Seigneur. C'est ce qu'ils avaient appris par ces paroles du Christ. « Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. » Leur véritable joie était de souffrir pour le Christ. Aussi revenaient-ils dans toutes les villes où ils avaient couru quelques dangers. Le lendemain, il partit avec Barnabé pour aller à Derbé. Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville et instruit plusieurs personnes, ils revinrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant le courage des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et leur montrant qu'il faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Tels étaient leurs discours et leurs enseignements. Ils fortifiaient le courage des disciples, leur inspirant ainsi la constance et l'union et les engageant à fuir toute occasion de péché. Grâce à l'accord qui s'établit entre les apôtres et leurs disciples, les uns parvinrent du premier coup aux prédications les plus persuasives, et les autres à comprendre la nécessité des souffrances et de la fermeté, ainsi qu'à rechercher moins les miracles que les épreuves. Aussi Paul, disait-il, subissant les mêmes combats que j'ai soutenus, comme vous l'avez vu et entendu dire. Ils essuyaient de fréquentes persécutions. Partout, ils étaient combattus, attaqués, lapidés. Aussi, voyez quelles étaient leurs exhortations et comme ils enseignaient à préférer les tribulations à toute chose. Voici encore une autre consolation qui leur était réservée. Traversant la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, et ayant annoncé la parole du Seigneur à Pergé, ils descendirent à Attalia. Car, pour ne pas laisser leurs disciples se décourager en voyant ce que souffraient ceux qui avaient d'abord été regardés comme des dieux, ils vinrent auprès d'eux et les exhortèrent. Remarquez-le bien. Paul va d'abord à Derbé pour laisser à la fureur populaire le temps de s'apaiser, puis il revient à Lystre, à Icône et à Antioche, s'éloignant devant la colère et revenant près du peuple apaisé. Vous voyez que la conduite des apôtres était dirigée non seulement par la grâce divine, mais aussi par leur activité personnelle. De là, ils firent voile jusqu'à Antioche, d'où ils avaient été envoyés par la grâce de Dieu pour faire l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Pourquoi reviennent-ils à Antioche ? Pour annoncer ce qu'ils avaient fait. Du reste, la Providence dévoilait ainsi une grande œuvre, c'est qu'il ne fallait pas craindre d'instruire les gentils. Voilà ce qu'ils viennent annoncer pour que tout le monde puisse le savoir. La Providence permet en même temps l'arrivée à Antioche de ceux qui s'opposaient à cette communication avec les gentils. Mais les apôtres, partis de Jérusalem avec tant de courage, y reviennent avec une égale confiance. En même temps, ils font preuve de soumission. En effet, s'ils avaient montré de l'indépendance en s'adressant aux gentils sans en avoir reçu la mission, ils prouvent aussi leur obéissance en rendant compte de leurs travaux. Leur conduite n'est pas suspecte d'orgueil. C'était d'Antioche qu'ils avaient été envoyés à la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit l'avait ordonné, mais ce qui vient du Saint-Esprit vient aussi du Fils, car le Fils et le Saint-Esprit ont une même puissance et une même nature. Après y être arrivés et avoir convoqué l'Église, ils racontèrent quelles grandes choses Dieu avait faites par eux, et comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi, et ils demeurèrent là assez longtemps avec les disciples. Ils avaient raison, car c'était une grande ville qui avait besoin de docteurs. Trente-deuxième homélie. Ils demeurèrent là assez longtemps avec les disciples. Quelques-uns qui étaient venus de Judée instruisaient ainsi les frères. « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous voyez que les Juifs eux-mêmes avaient partout forcé les apôtres à se porter vers les gentils. Quand on commença à l'accuser, Paul ne fit que se justifier afin de n'offenser personne. Mais les Juifs, se détournant de lui, il s'adressa aux gentils. Pour éviter tout excès d'un côté ou de l'autre, il établit cette règle que les apôtres étaient envoyés par Dieu pour parler indistinctement aux uns et aux autres. Mais cela excita la jalousie de ceux qui arrivaient de Judée. Cela non seulement exigeait la circoncision, mais prétendait que l'on ne pouvait être sauvé sans cela. Il fallait donc enseigner le contraire et dire que la circoncision ne procurait pas le salut. Voyez combien de tentations de part et d'autre. Du reste, c'est la Providence qui a permis que Paul soit présent, afin de s'opposer à cette opinion. Paul ne dit pas « Qu'est-ce donc ? Ne suis-je pas digne de confiance après tant de miracles ?» Mais il usa de condescendance à leur égard. Remarquez du reste qu'en apprenant ce qui s'était fait chez les gentils, tout le monde s'en réjouit, même les Samaritains. Paul et Barnabé s'étant donc fortement élevés contre eux, il fut résolu que Paul et Barnabé, quelques-uns d'entre les autres, iraient à Jérusalem pour consulter les apôtres et les prêtres sur cette question. Les fidèles de cette église les ayant accompagnés à leur départ, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils faisaient une grande joie à tous les frères. Étant arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les prêtres annonçant tout ce que Dieu avait fait par leurs moyens. Voyez quelle providence dirige tout cela. Plusieurs de la secte des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent et soutinrent qu'il fallait circoncire les gentils et leur imposer la loi de Moïse. Les apôtres et les prêtres s'assemblèrent pour examiner cette question. Après qu'ils eurent beaucoup conféré ensemble, Pierre se leva et leur dit « Frères, vous savez qu'il y a longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que les gentils puissent entendre de ma bouche la parole de l'Évangile et y croire. » Observez que Pierre n'avait pas encore pris beaucoup de part à cette œuvre et que jusque-là, il était pour les coutumes judaïques. Cependant, il dit « Vous savez tous ». Peut-être, en effet, se trouvaient-ils là quelques-uns de ceux qu'il avait accusés autrefois d'être allés chez Corneille, et aussi quelques-uns de ceux qui l'y avaient accompagné. Aussi invoque-t-il leur témoignage. « Il y a longtemps que Dieu m'a choisi. » Que veut-il dire quand il ajoute « parmi vous » ? Il parle des fidèles de Palestine, ou seulement de ceux qui sont présents. Quand il dit « par ma bouche », il montre que Dieu parle par sa voix et que son langage n'a rien d'humain. Dieu, qui connaît les cœurs, lui a rendu témoignage. Ainsi, il les appelle à ce témoignage spirituel, en leur donnant le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous. Vous voyez que partout, il met les gentils au niveau des Juifs. Il n'a point fait de différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi à elle seule, dit-il, leur a donné tout ce que nous avons. Cela suffisait pour faire entrer les Juifs en eux-mêmes, et ils auraient pu leur apprendre aussi que la foi seule était nécessaire et dispensait des pratiques et de la circoncision, car il ne s'agissait pas seulement de soutenir la cause des gentils, mais de supprimer pour eux la loi de Moïse. Cependant, on ne le dit pas encore. Maintenant, pourquoi tentez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter ? Mais nous croyons que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés aussi bien qu'eux. Que signifient ces mots « Pourquoi tentez-vous Dieu ?» Ils veulent dire « Pourquoi manquez-vous de confiance en Dieu et le tentez-vous comme s'il n'était pas capable de sauver par la foi ? » Conserver l'ancienne règle est une marque d'incrédulité. Ensuite, ils remarquent qu'eux-mêmes ne l'ont point observé, mais ils ne les en accusent point, car ils n'en rejettent pas la faute sur eux, mais sur la loi. Ce joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons pu porter, mais c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous croyons devoir être sauvés aussi bien qu'eux. Quelle puissance dans ces paroles ! Ce que Paul dit dans plusieurs passages de son épître aux Romains, Pierre le dit ici. « Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de la gloire, mais non devant Dieu. » Vous voyez qu'il s'agissait encore plus de l'instruction des Juifs que de la défense des gentils. Même sans cette occasion, un pareil langage n'aurait peut-être pas paru suspect. Mais cette occasion étant donnée, c'était une raison de plus pour parler hardiment. Remarquez aussi tout ce qu'ils gagnent par les efforts de leurs adversaires. Sans cela, ces choses n'auraient pas été dites, ni celles qui le furent plus tard. Les Juifs apprennent par là que, quelle que soit leur disposition à l'égard des gentils, ils ne doivent pas s'opposer à leur conversion. Mais étudions encore ce discours. « Il m'a choisi parmi vous et depuis longtemps. » C'est-à-dire, ma mission est ancienne et ne date pas d'aujourd'hui. Cette considération est importante quand il s'agit de se séparer même des Juifs convertis. Il soutient donc ses paroles par les circonstances de temps et de lieu. Le mot « il m'a choisi » est aussi fort juste. Il ne leur parle pas seulement d'une volonté, mais d'un choix. Comment s'est-il manifesté ? Par le Saint-Esprit. Pierre montre aussi que ce qui s'est passé témoigne non seulement de la grâce, mais aussi de la vertu des gentils, et que Dieu n'a pas été plus avare envers ceux-ci qu'envers les Juifs. Il n'a fait, dit-il, aucune différence entre eux et nous. C'est donc le cœur qu'il faut chercher partout, et il dit avec raison, « Dieu qui connaît les cœurs lui a rendu témoignage. C'est la même pensée que plus haut. Seigneur, qui connaissait les cœurs de tous les hommes, dirigez-nous. Et pour montrer que c'est bien là ce qu'il veut dire, voyez ce qu'il ajoute, et il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Quand il parle du témoignage de Dieu en faveur des gentils, c'est un mot bien grave, tel que celui de Paul, la circoncision n'a pas plus d'importance que le prépuce. Et aussi, afin de réunir les deux peuples en lui-même. Tout cela est en germe dans le discours de Pierre. Il ne dit pas « les circoncis », mais « parmi nous », c'est-à-dire « parmi les apôtres ». Pour ne pas les blesser, en disant qu'il n'y avait aucune différence, il ajoute « Dieu a purifié leur cœur par la foi », ce qui l'empêche de leur paraître suspect. Tout en supprimant ce qui pourrait choquer dans son langage, il finit par leur faire voir que l'ancienne loi était bonne, mais que les hommes étaient trop faibles pour la porter. Cependant, voyez ce qu'il y a de terrible dans la fin de son discours, il ne s'appuie pas sur les prophéties, mais sur les faits présents dont ses auditeurs étaient témoins. En effet, il les atteste, et ce qu'ils ont vu confirme ce qu'ils entendent. Observez aussi qu'il permet pour la première fois une discussion dans l'Église et qu'il y prend part. Et comme il ne dit pas des circoncis mais des gentils, et ainsi d'une part il exprime plus fortement sa pensée par une insinuation et de l'autre il met en doute que l'on puisse se sauver en suivant la loi, voyez comme il poursuit, il montre que les Juifs sont en danger, car ce que la loi ne peut faire, la foi le peut, et que cette loi n'existant même plus, ils sont dans un péril inévitable. Il ne leur dit pas « Vous êtes infidèles », ce qui serait trop dur, surtout pour une cause déjà gagnée. Il n'y avait pas de gentils à Jérusalem, mais à Antioche, il est clair qu'il y en avait. Aussi, les apôtres y vont et y passent assez longtemps. Cela avait déplu à plusieurs pharisiens qui étaient encore possédés de leur ambition maladroite et qui voulaient dominer les gentils. Mais Paul était un savant docteur et il s'y opposa. Quand il revint, les dogmes commençaient à se préciser. Car si les apôtres de Jérusalem n'avaient pas eu les exigences des pharisiens, Paul et Barnabé les avaient bien moins encore. Voyez comme ceux qui n'avaient pas cherché à dominer se réjouissent maintenant dans leur foi. Ils n'allaient pas faire des récits pleins d'orgueil et d'ostentation, mais se justifiaient de la prédication qu'ils avaient faite aux gentils. Aussi ne disent-ils rien de ce qui leur est arrivé avec les Juifs. Les pharisiens étaient bien obstinés, puisque même après leur conversion, ils conservaient leurs usages et n'obéissaient pas aux apôtres. Mais pour ceux-ci, remarquez comme ils parlent avec douceur et sans déployer leur autorité, ce qui fait toujours plus d'impression. Ne voyez-vous pas que ceux qui agissent n'est pas la force de leurs paroles, mais celle de leurs actions, celle du Saint-Esprit ? Malgré de pareils soutiens, ils parlent doucement. On ne songeait pas accuser ceux d'Antioche, mais cela en fournit l'occasion, tant était grand le désir de dominer chez ceux qui accusaient les apôtres, même sans les en prévenir. Ceux-ci ne firent rien de semblable, mais après avoir exposé leur doctrine par leur discours, ils la développèrent avec une nouvelle ardeur par leurs écrits. C'est toujours une chose admirable que la bonté, mais je dis la bonté et non l'indifférence, la bonté et non la flatterie. Tout cela ne peut se confondre. Voilà, chers auditeurs, cette mention du Saint-Esprit s'achève cette première partie donc, du récit de ce qu'on appelait le Concile de Jérusalem. Parce qu'à partir de la Pentecôte, nous l'avons vu dans la première partie de cette œuvre des Actes des Apôtres, le protagoniste de l'Église est l'Esprit-Saint. C'est lui qui anime tout, qui aide à être fort dans le martyre, mais aussi à vaincre les résistances qui peuvent apparaître au sein de la communauté chrétienne elle-même. C'est l'histoire du chemin parcouru par l'Église depuis les origines et nous pourrions ajouter jusqu'à nos jours. Car à Vatican II, on a redécouvert la synodalité dont on parle beaucoup actuellement et les synodes réunis à d'intervalles réguliers par les papes tous les 3 ans environ sont une expression, une mise en œuvre de cette synodalité voulue par le Concile Vatican II. C'est-à-dire que l'Esprit met les cœurs toujours devant sur de nouvelles routes et les apôtres eux-mêmes se sont trouvés dans des situations qu'ils n'auraient jamais imaginées, des situations nouvelles. Le problème étant, comment gérer ces situations nouvelles, eh bien, la synodalité est précisément ce qui permet d'y répondre par des assemblées d'Église. Voilà, nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour poursuivre donc au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne. Au revoir.